Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
L'article s'appelle « La jeune héritière, la belle-mère et les millions dilapidés ». Il est signé Gaspard Delhem et publié par Le Monde le 17 octobre 2024. C'est la première fois que la jeune héritière s'exprime et c'est cet article qui nous a donné envie de la rencontrer. Elle, donc, jeune héritière de la famille Schlumpf, dont la fortune repose au début du XXe siècle sur la production de laine peignée. De gros industriels alsaciens et paternalistes qui voient leur modèle s'épuiser dans les années 70, d'autant, raconte Gaspard Delhem, qu'ils prennent un peu dans la caisse pour s'acheter des voitures de luxe, la plus grosse collection privée d'automobiles connue au monde. Il s'ensuivra une lutte syndicale acharnée contre des licenciements en masse, avec occupation de filatures et séquestration de patrons, suivie de leur exil en Suisse. La belle-mère de l'histoire, ensuite, est entre guillemets dans le titre de l'article, car elle n'a rien à voir avec la famille Schlumpf. Elle est la mère d'une amie de l'héritière, mais fait figure de mère de substitution. Enfin, plutôt de marâtre, si on en croit la suite de l'histoire, où se mêlent magie noire, voyance et maraboutisme, l'un pour éloigner le mal et l'autre pour attirer le bien. Les millions décapités, enfin, ce sont entre 11 et 12 millions d'héritages disparus, dont une grande partie évaporée sans que personne, pour l'instant, ne sache comment. Le reste, c'est Leïla Djitli qui vous le raconte tout de suite pour Les Pieds sur Terre.
Je m'appelle Cléophée, j'ai 34 ans, j'habite à Colmar. Je suis la seule héritière de la famille Schlumpf qui détenait le musée de l'automobile à Mulhouse. Grande famille, très connue en fait. Si on dit le nom Schlumpf en Alsace, forcément, les gens qui connaissent un peu l'automobile se réporteraient à ça. Alors, mon grand-père, donc j'avais un an quand il est décédé. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée. Ma mère, c'est vrai qu'elle était très malade quand j'étais petite déjà, donc elle avait beaucoup de problèmes de santé. Ça s'est aggravé à mes 8-9 ans, où elle faisait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital en Suisse. Après, elle est restée pendant un petit moment à l'hôpital, et elle a pu quitter l'hôpital, donc elle est décédée quand j'avais 10 ans. Ma grand-mère n'était pas pour la relation de ma mère et mon père au début. Parce que lui, il est issu, on va dire, d'une famille quand même de paysans. C'était deux mondes opposés. Maintenant, mon père a été là pour ma mère. Tout au long de sa maladie, ça, je peux pas l'enlever. Mais je pense que vis-à-vis de moi, il y a eu toujours une... Je sais pas s'il m'aimait ou pas, j'en sais rien en fait, je peux pas dire. Mais... je ressemblais beaucoup à ma grand-mère. Et vu qu'entre eux, c'était pas forcément une entente phénoménale, il m'associait à ma grand-mère. Donc, on avait déjà des liens qui étaient détachés. Au décès de ma mère, il aurait dû jouer un peu, je pense, son rôle de papa et pas se mettre dans un coin et pleurer. Il était effondré. Mais bon, il aurait dû savoir qu'il avait peut-être une fille, en fait. Et qu'elle aussi, elle était effondrée. Donc, en fait, il pleurait à droite, moi, je pleurais à gauche. Mais il serait pas venu en me disant, ça va aller... Je suis là, quoi. Non. On habitait à Winsenheim, dans une villa à Winsenheim, à côté de Colmar. Donc c'était une grande maison avec du lierre. Enfin, toute la façade était remplie de lierre. Un jardin énorme, une piscine... des noyers où on avait des framboises, enfin c'était vraiment... J'avais une petite vie de conte de fées en fait, une vie de princesse. Ma grand-mère m'a élevée dans le bonheur, j'avais tout ce que je voulais. Je dis conte de fées parce que quand j'étais gamine, moi l'argent, je savais qu'il y en avait et c'est... je m'en foutais parce que moi j'avais ce que je voulais. J'avais un doudou, je voulais une peluche, je voulais une peluche, je voulais un chien, j'avais un chien. Elle me donnait tout ce que je voulais. C'était... mamie gâteau. Mon Dieu, si je disais mamie, elle me sauterait dessus. Je suis pas ta mamie, hein, je suis ta malou. Ah, fallait pas dire mamie. Hein. Ah non, c'était pour les vieux, mamie. C'était malou. Malou, j'ai encore un cheval. Ok, on prend un cheval. Peu de temps après le décès de ma mère. Et en fait, l'équitation, ça a été ma thérapie. Je parlais pas forcément ni à ma grand-mère, ni à mon père de ma tristesse par rapport à ma mère. J'allais chez le poney et puis j'allais dans le box et puis je pleurais dans le box. En fait, je montrais pas ma tristesse à ma grand-mère. Je pouvais être triste, ma mère pouvait me manquer, mais elle essayait tellement de me rendre heureuse que je voulais pas lui montrer que j'étais triste. Donc en fait, mon poney, c'était là où je m'échappais un peu. Donc ça allait pas, je sortais de l'école et puis j'allais sur le cheval et je partais pendant 1h30 en promenade. C'était mon échappatoire. Et après, j'ai eu un poney, après elle m'en a repris un deuxième, un troisième. Elle voulait que je sois heureuse en fait. Il y avait une pudeur quand même, parce que c'était quelqu'un qui... Voilà, c'était pas la grand-mère où on va dire, j'allais pas lui dire mes premiers problèmes de fille. Même si elle était là totalement pour moi, je n'osais pas. Alors à côté de ça, elle m'emmenait faire les magasins, shopping, mais j'aurais pas acheté mon premier soutien-gorge avec elle. Peut-être, mais oui, c'était une pudeur, parce que c'était... je devenais femme et j'avais peut-être honte de tout ça. Et enfin, c'est compliqué, ça c'est le rôle d'une maman. Et ma grand-mère, c'était... J'avais on peut dire un respect, peut-être. Avec son mari, ils se vous voyaient. Donc vous voyez, c'était pas bourgeois, c'était respectueux. Ma grand-mère était pas quelqu'un qui se... Elle allait dans un grand restaurant... Tout le monde mangeait, on va dire, du caviar. Elle préférait prendre un steak frites. Et en fait, une simplicité... c'était pas, je peux pas dire bourgeois, parce que c'était pas... Elle était un peu extravagante. Mais en restant simple, c'était une personne qu'on la voyait. Elle rentrait quelque part, waouh, Brigitte Bardot. Chevelure blonde, crêpée, plumes dans les cheveux, maquille les yeux, maquillée tout bleu, une belle robe, les talons. On savait que Madame Schlumpf arrivait, quoi. Elle m'a pas appris la notion de l'argent. C'est-à-dire que j'accompagnais ma grand-mère, je voyais qu'on allait dans les grands restaurants, j'avais un train de vie qui n'était pas forcément le train de vie d'une jeune fille de 15 ans. On allait beaucoup à Saint-Tropez, on allait à Courchevel. Bah, c'était une autre vie, c'était, j'avais 15 ans, elle m'emmenait chez le coiffeur, chez la maquilleuse. Écoutez, ce soir on sort, vous maquillez, vous habillez ma petite fille, hop. Moi, j'étais contente, hein. Petite princesse. Hop, j'allais me faire avec un mec qui me suivait avec des paquets. J'allais faire mon shopping pour le soir et pour une robe que je ne me remettrai plus jamais. Hein. Hop, j'allais choisir ma tenue et puis le soir, je sortais avec ma grand-mère. Ma grand-mère a toujours tout fait, par contre, pour protéger au niveau de la fortune. Elle savait gérer et elle voulait tout protéger quand même pour moi, pour mon présent. Donc elle était extravagante, elle dépensait les choses parce qu'elle avait les moyens, elle avait bien raison. Elle faisait des grands restaurants, elle s'achetait des belles robes, des sacs à main. Mais elle avait tout préparé pour que moi, je ne sois pas dans le besoin. Elle avait mis sur un compte ce qu'il me fallait pour que je puisse m'en sortir toute ma vie. Là, j'avais une fortune phénoménale. La fortune s'estimait à 12 millions d'euros. Moi, j'étais dans un autre monde à ce moment-là, voilà. Je pensais pas qu'il y avait des méchants sur Terre, hein. Vous voyez, je pensais vivre dans un monde de bisounours et puis que ma vie, elle continuerait comme ça tout le temps. Non, je pensais pas que les choses pouvaient tourner mal pour moi. Il faudrait revenir un petit peu, je pense, en arrière. Quand j'étais petite, j'allais à l'école de l'Assomption. L'Assomption, c'est l'école, le primaire, collège, où j'ai fait mes études. Il y avait une dame qui était une amie, une connaissance de ma mère, donc Madame Josiane Hickel-Seiler, qui avait deux filles. Donc Mathilde et Julia étaient beaucoup plus grandes à ce moment-là. Elle avait 7 ans de plus. Mathilde était à l'école avec moi. Elle était une classe en dessous. Mais on va dire qu'on se côtoyait parce que cette dame, donc Josiane, était mariée à docteur André Hickel. Donc qui avait aussi pas mal de sous, on va dire. Mmh. Ils avaient une belle maison. Ils vivaient aussi une belle vie. Et on a sympathisé, voilà. Moi, je m'entendais bien avec Mathilde. Forcément, elle avait un an de moins que moi. Donc on s'entendait bien. On partait en vacances ensemble avec monsieur docteur André Hickel, Mathilde, Julia, moi et ma mère et mon père. Donc ça, on était déjà partis ensemble. Mais après le décès de ma mère, à ce moment-là, Josiane a voulu divorcer de son mari. Elle l'a fait passer pour le pire des hommes, hein. Nous, bah forcément, une femme toute seule qui se fait plaindre, bah ma grand-mère, la pauvre, elle a deux filles. Voilà, elle a été là aussi pour Josiane. Donc elle lui a laissé la porte ouverte. Puis moi, je m'entendais super bien avec Mathilde et Julia. Donc elle était contente, j'avais des copines. Si j'étais heureuse, ma grand-mère était heureuse. Ensuite, moi je grandis, on est toujours copines, on a les mêmes amis, les mêmes copains. Voilà, je vais chez Mathilde, Julia et Josiane. Elles viennent à la maison, je dors chez elles, elles dorment chez moi. Enfin voilà, vraiment comme des sœurs. C'était mes sœurs quoi. À ce moment-là, Josiane a été là comme une mère de substitution. C'est-à-dire que, comme je n'osais pas demander pour acheter du soutien-gorge à ma grand-mère, eh ben j'allais voir Josiane. Et puis on allait avec Mathilde. Et à ce moment-là, mes premières peines de cœur, bah j'en parlais à Josiane. Mes problèmes féminins, j'en parlais à Josiane. Puis comme elle avait avec Julia, bah elle nous gardait avec Mathilde. Des fois Mathilde me faisait des crises de jalousie parce que j'étais trop proche de sa sœur. Enfin voilà, c'était vraiment pour moi, je m'étais retrouvée une petite famille. Donc après les années ont passé, ma grand-mère est décédée quand j'avais 17 ans. J'avais perdu encore ma malou quoi, c'est encore une étape que je me dis, mince, quoi, c'est pas possible, quoi. D'abord ma mère, maintenant ma grand-mère, bon. Mon père, alors là, encore moins d'entente avec lui. Donc, Josiane était devenue ma nouvelle maman, entre guillemets. Moi, je lui faisais entièrement confiance. J'avais des gens, j'étais pas toute seule. Je pouvais leur confier ma vie entre leurs mains. C'était, pour moi, il y avait aucun doute. À ce moment-là, je m'effondre chez Josiane. Josiane, ça va pas du tout, il faut que tu m'aides. J'ai envie de parler à ma mère, ma grand-mère, j'ai plus personne. Mais t'inquiète pas, Cléophée, je vais m'occuper de toi, je sais que c'est dur. T'inquiète pas, moi je suis là, j'ai promis à ta mère d'être là. J'ai promis que je t'abandonnerai pas, je te laisserai jamais tomber. Je vais t'emmener voir une voyante, tu vas pouvoir leur parler. On m'emmène chez une voyante toute première fois. J'y vais sans y croire, hein, moi je dis. Et là, elle me dit des choses phénoménales. Des choses où je me dis, bah c'est pas possible, comment elle aurait pu savoir. À ce moment-là, Josiane me fait tomber dans la dépendance de la voyance, où elle me dit, écoute, ton père te veut du mal, nous on va être là, ton père veut te prendre toute ta fortune, il faut te protéger, il faut que je t'emmène chez des gens pour protéger ton avenir, sinon bientôt t'auras plus rien. Allez, une séance de voyance à 50 euros, on passe à une séance de voyance à 100 euros, on passe à 1000 euros, on passe à 2000 euros. Oui, il faut encore faire des travaux occultes, en fait, parce que sinon, tu vas perdre tout ton argent. Donc, j'ai été témoin de scènes où, elle a enterré un cœur, non mais, pour lui faire des sorts, j'ai vu des choses, ah oui. Et donc, on repart sur les séances de vaudou. Elle me dit, écoute, par contre, là, c'est un travail que Tony va devoir faire, qui va être très dur, c'est au moins 20 000 euros. Et je suis partie dans un engrenage, 20 000, 40 000, 50 000, 60 000. À ce moment-là, moi, je suis tombée dans l'anorexie. Donc, j'étais l'ombre de moi-même. Vous voyez, un légume, hein, j'étais un légume. Josiane me disait, saute d'un pont, je sautais d'un pont. Voilà. J'avalais tout, en fait. Tant qu'elle me disait quelque chose, c'était que c'était bien pour moi. À un moment où j'étais pas bien, elle est partie à Saint-Tropez. Elle m'a dit, écoute, tu peux venir à Saint-Tropez, par contre tu restes 3 jours parce qu'après mes filles arrivent. Il y a Mathilde et Julia qui arrivent, je m'occupe de mes filles. J'ai accepté, je l'ai trouvée encore gentille de me proposer de venir. Et je me disais, oh, c'est quand même gentil, je comprends, elle va être avec ses filles. Bah oui, forcément, pour dépenser les sous, pour tout dépenser, parce que ses travaux occultes en fait devaient être à 50 euros. 50 euros sur 50 000. Elle avait largement sa marge. Hein. Mais moi, sur ce coup-là, j'étais complètement lobotomisée. Je me rendais compte de rien. Et puis, Josiane montait mon père contre moi. Moi, elle me montait contre mon père. Donc, en fait, elle divisait pour mieux régner. Voilà. Vu que lui, pareil, hein, il n'avait pas d'amis autour, il n'avait rien. Elle a réussi à émincer tout le monde, comme elle a fait autour de moi. Parce que moi, à ce moment-là, pareil. Hein. Jamais mes copines n'étaient assez bien. Il n'y avait que elle et ses filles qui étaient correctes. Donc moi, déjà qu'on n'avait pas une bonne entente avec mon père, elle a réussi à nous séparer complètement et on n'avait plus de lien. Le seul lien qui nous unissait entre mon père et moi, c'était Josiane. Mon père disait tout à Josiane et moi, je disais tout à Josiane. Donc j'étais à la banque CIC. Je sortais beaucoup de sommes d'espèces pour elle. Une nana au guichet a averti mon père, écoutez, votre fille, elle sort quand même beaucoup d'argent. Mon père l'a dit à Josiane. Donc elle me dit, Cléophée, maintenant tu vas appeler ton père, tu vas lui menacer, tu vas lui couper les vivres, tu vas dire que tu vas changer de banque, ton père veut tout te prendre, moi je vais t'emmener à ma banque, tu vas te faire des comptes, faut virer tout l'argent. Et puis elle faisait pareil à mon père. Cléophée va tout te prendre, elle va te ruiner, enfin... Et donc moi, de ce pas-là, j'appelais mon père. Je lui disais, vire-moi 50 000, sinon je te coupe les vivres, je te vire de chez toi, t'as plus rien. Bah, exactement ce que Josiane me disait, hein. Les mots qu'elle me disait, je les répétais. Et elle m'a fait ouvrir un compte dans sa Société Générale. Elle m'a fait ouvrir une carte où moi, j'avais une petite carte avec un petit débit. Et elle m'a fait signer un autre compte avec une carte où tous les virements arrivaient sur ce compte. Mais c'était elle qui détenait cette carte gold en mon nom. Et je veux dire, les filles savaient très bien, parce qu'elles payaient aussi avec ma carte. Ouais. Et puis, Josiane m'a fait signer des prêts pour elle et ses filles, pour que son ex-mari André Hickel ne soit pas au courant de son train de vie qui était hors norme. Hein, parce qu'elle, à ce moment-là, était déjà en procès avec lui et lui soutirait déjà de l'argent. Ses filles avaient un train de vie phénoménal et elles avaient des pensions alimentaires hein, quand même, hein, que son mari devait verser. 1 400 ou 1 500 euros, sûrement pour payer la bouteille de champagne qu'elle prenait au Biblos. Une grande adresse à Saint-Tropez. Et du coup, elle m'avait fait signer des papiers qu'elle avait fait signer aussi à ses filles, comme quoi je faisais des prêts pour qu'elle ait une maison où vivre avec ses filles. C'était deux prêts à une hauteur de 150 000 pour chacune de ses filles. Et puis Josiane, quand elle a pris du coup cette maison, elle m'avait dit « Eh ben écoute, reprends mon appartement rue au Maraîcher ». Donc elle était en location. « Je te fais reprendre la location de l'appartement et tu me rachètes tous les meubles qui sont à l'intérieur ». Elle m'a fait une estimation de meubles à des sommes exorbitantes, que le mari était encore en train de payer. C'était en hypothèque, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Donc j'ai encore des canapés en hypothèque. Bon, moi, j'en savais rien. Moi, je voulais juste l'appartement de Josiane. Hein. De fil en aiguille, bah, je suis rentrée dans un tourbillon. Et je signais, je donnais, je signais, je donnais. À ce moment-là, les filles... on avait des liens, mais plus... Elles ont fait leurs études. En fait, elles ont laissé leur mère faire le travail, me ruiner, et puis elles réceptionnaient l'argent. Voilà. Elles avaient du coup une vie de rêve, elles partaient en vacances, elles ont eu des études de rêve grâce à tout ça, parce qu'elles sont les deux médecins. Une est psychologue à Belfort, la grande, Julia Mathilde est à Strasbourg, elle est médecin cardiologue, elle est à l'hôpital de Strasbourg et elle a son cabinet. Julia faisait déjà ses études de médecin, donc elle avait 25 ans à cet âge-là. Les deux m'ont vue dans l'anorexie, les deux m'ont laissé, je peux dire le mot, crever. On voit une fille qui est anorexique. Donc au lieu de dire à leur mère, « Ah maman, par contre, on n'emmène pas Cléophée à Noël parce qu'on ne veut pas d'anorexique à table », elles auraient plutôt dû venir me voir et dire, « Cléophée, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je leur donnais honte à Noël. Mon image les embêtait, parce que j'étais une anorexique. Mes sœurs m'ont laissé tomber. Et le tourbillon infernal continue jusqu'à un jour où elle me demande une somme d'argent pour payer encore de la voyance. Moi, j'appelle mon père. « Ouais, il faut ça. » Il me dit « On n'a plus rien. » Je dis « Quoi, on n'a plus rien ?» Il me dit « On n'a plus rien. On est ruiné. » Donc, j'ai dit « Écoute, j'arrive. » On ne s'était plus vu hein, depuis longtemps. Il me dit « Ouais, t'as tout dilapidé. » Parce que Josiane, en fait, à ce moment-là, pour dire à mon père que, par exemple, il me fallait 50 000 euros, elle faisait faire des fausses factures, des habits qu'elle achetait, elle, Dior, Hermès, Vuitton. Elle a acheté des montres, elle a acheté des bijoux, elle a acheté des colliers. Et puis, elle faisait mettre à mon nom. Comme ça, elle me disait « Ah, je donne ça à ton père, comme ça, il nous fout la paix. » Et mon père n'était pas au courant de ce train-train de vaudou. Ça, il ne savait pas, lui. Voilà. Et alors, mon père, justement, à ce moment-là, me dit « Mais toi, avec ton train de vie, alors que bon, j'allais chez le chinois me prendre des habits, vous voyez, c'était pas... Je ne m'achetais pas du Vuitton et du Hermès. Je m'en fichais, moi. » Et là, là, je lui dis la vérité. « Ouais, mais pourquoi tu t'es fait avoir ?» Je dis « Attends, tu t'es fait avoir aussi. tu vas appeler Josiane. Et je vais appeler Josiane. Et on va tous les deux se mettre en haut-parleur, sauf qu'on se dit qu'on n'est pas ensemble. Ok. Il appelle Josiane. Ouais, ta conne de fille, donc Josiane, elle veut faire ça, elle veut tout te prendre. Ok, il raccroche. Maintenant, je l'appelle. Ouais, ton connard de père. Ok. J'ai dit, maintenant, on est d'accord, elle nous a manipulés tous les deux. On fait quoi? J'étais anorexique, dépressive. Hein. Là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, soit tu te lèves et tu marches, hein, soit tu sautes d'un pont. Franchement, à ce moment-là, je voulais mourir. Les dépenses, je pouvais plus les payer. Donc, bah, j'ai commencé à me séparer de tout. C'est-à-dire vendre ma voiture, je pouvais plus le payer le loyer, donc rendre l'appartement, vendre tout ce que je pouvais vendre. J'ai commencé à me trouver un boulot. Je savais pas bosser non plus, hein, parce que... voilà, à part quelques petites études de maquillage et des choses comme ça, j'avais rien fait de spécial. Donc j'ai commencé à bosser en restauration. Fallait un salaire, fallait des sous pour m'en sortir. Je me suis retrouvé dans un appartement miteux. Hein. Voilà, tant qu'il y avait un endroit pour dormir, c'était bon. Et voilà, les choses se sont un peu enchaînées comme ça, où bah, j'étais tout en haut et puis bah, j'ai dévalé les escaliers à me dire comment je vais manger demain, quoi. Et vu que mon père n'avait donc plus rien, il pouvait pas m'aider, je pouvais pas l'aider, quoi. Donc, j'ai revu une amie à moi, de longue date, et qui me dit, écoute, ça va pas du tout, c'est encore pire, quoi. Tu maigris encore plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui raconte tout. Elle m'avait déjà essayé de me prévenir, mais elle m'avait dit, écoute, fais attention à cette femme te veut du mal. Et puis Josiane, forcément, je lui répétais tout. Donc elle m'a dit, ah bah non, hein, cette fille, faut pas que tu la fréquentes, c'est pas quelqu'un de bien, c'est elle qui veut ton mal, et moi, je gobais les phrases à Josiane, donc... elle me dit, écoute, moi, la seule solution que j'ai, c'est d'aller voir André, donc l'ex-mari. Et tu vas lui expliquer, parce qu'il a vécu la même chose, et elle lui a tout pris. Donc je vais le voir, je lui explique, et on parle. Il me dit, écoute, Léofé, voilà, moi, personne ne m'a cru. Toi, faut pas que tu la laisses gagner, quoi. Du coup, bah, moi, j'avais pas les moyens de payer un avocat. Et c'est à ce moment-là qu'un jour, bah, j'ai rencontré Manu Lénis, qui était déjà un ami de ma mère. Et il connaissait très bien aussi ma grand-mère et mon grand-père. Et là, bah, grâce à lui, j'ai réussi à avoir un avocat. Voilà. Alors, le procès a eu lieu en juillet. Sur le moment, en fait, je ne réalisais pas tout, en fait. Parce que c'était inespéré pour moi, vraiment. Après 7 ans où je me suis dit, je baisse les bras, c'est fini. En fait, il n'y aura plus rien, t'as perdu. C'est terminé. Ta vie, elle sera comme ça. Et puis, elles ont gagné, quoi. Ça a été long. Moi, j'ai perdu espoir parce que, bah, y a eu le changement de juge. Ensuite, il y a eu le Covid. Mmh. Et là, en voyant Josiane, en voyant ses filles arriver fières en plus, je me suis dit, mais comment j'ai pu en fait me dire que ces gens-là pouvaient être une famille pour moi? Pour moi, au tribunal, en fait, elles ont très bien joué la comédie. Elles plaident l'ignorance. Mais comment on plaide l'ignorance et pleurer au tribunal? Allez, arrête. Hein. Est-ce que tu as pleuré comme ça quand ta mère t'offrait un sac à main à 20 000 euros? Tu as pleuré aussi, peut-être pas de la même manière. Est-ce qu'à un moment, ces deux filles se seraient pas dit « Attends, on va aller voir Cléophée, on va essayer de la trouver. » Elle m'aurait trouvé. Me prendre ou par le billet d'avocat, je sais pas, dire « Écoute, Cléophée, nous, ce qu'a fait notre mère, nous, ça nous regarde pas. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. » Est-ce qu'elles n'auraient pas pu avoir l'intelligence de faire ça? Si vraiment, pour elles, elles n'étaient pas fautives. Non, elles préféraient partir aux États-Unis, à Saint-Tropez, se payer des vacances à 30 000 euros à Courchevel. Pendant que moi, en fait, j'étais en train d'essayer de trouver quelque part où dormir pour pas être dehors. Pendant ce temps, ces filles-là, elles se payaient des vacances de rêve. Alors, le jugement est tombé en octobre 2024. Josiane a été condamnée à 3 ans de prison ferme et me rembourser la somme de 5 millions qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que ma fortune était estimée à 12 millions d'euros. Où sont passés les 7 millions? Elle a sa maison qui me revient. Et les filles ont été condamnées à 1 an avec sursis et me rembourser la somme de 300 000 euros chacune. Après, moi, ce que je demandais, en fait, c'était vraiment que les filles aient une solidarité avec la mère. Parce que, à la limite, qu'elles doivent me rembourser une somme, certes, mais pour moi, ces deux filles, en fait, sont autant responsables que leur mère. Et si leur mère paye les pots cassés, elles ont à payer les pots cassés. Parce qu'elles profitent de la vie qui m'était destinée. Et je pense que la somme qu'elles doivent me rembourser, elles pourront me la rembourser sans problème, en sachant qu'elles gagnent toutes les deux 10 000 euros par mois. Par mois. Ouais. Donc je ne sais pas si vous imaginez, moi 10 000 euros, je ne l'ai pas sur le compte en banque. Vous voyez, je travaille en tant que serveuse. Selon les heures que je bosse, ça varie entre 1 004 ou 1 006. Mais 10 000 par mois, je pense que ça va. Elles sont pas à plaindre. Et alors on va dire, oui, elles ont fait les études pour. Oui, mais qui a payé les études pour? Depuis 7 ans, je me suis reconstruite. Maintenant, il y a toujours une part de moi qui restera inachevée. Elles ont quand même en fait brûlé entre guillemets une partie de moi. Maintenant, bien sûr que je me relève et j'ai, de plus d'avoir un enfant et de se battre tous les jours pour, c'est une autre vie et c'est une force. Mais elles m'ont brûlé une partie de mon cœur en fait. Vous savez, j'ai eu le décès de ma mère, de ma grand-mère. Et ensuite, j'ai dû vendre mes chevaux que m'avait pris ma grand-mère. Et en fait, là, je me suis sentie comme un monstre de devoir en fait donner mes chevaux pour rien. Parce que mes chevaux, c'était ma vie, c'était ma force. Et j'ai dû me séparer de ça pour survivre. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, je pourrais réussir à remonter sur un cheval. Ça m'a brisée, en fait. Et j'aurais toujours une rancœur, parce que de tout ce qui s'est passé, avec le recul, je me dis, je pourrais offrir tellement de choses à mon fils et pas me dire... au début, quand j'ai eu le petit, j'ai dû aller à la manne, quoi. La manne, c'est une association qui donne, en fait. On va avoir une assistante sociale et puis selon les revenus, on peut avoir des couches ou des choses qui sont des fois à la date limite et qui peuvent plus être vendues en magasin. Parce que j'avais pas de quoi payer les couches, j'avais pas de quoi manger. Au début, même si je me suis reconstruite et je suis avec le papa, même avec deux salaires, je veux dire, c'est la vie de tout le monde, en fait. Là, les filles, on est en appel, donc je dois encore attendre. Donc, est-ce qu'on repart sur 6 mois? Est-ce qu'on repart sur 1 an? Est-ce que ça va être fini dans 2 mois? Pour l'instant, pour moi, il n'y a rien qui change, quoi. Donc maintenant, il faut juste qu'il y ait une justice à la hauteur du préjudice.
C'était Cléophée et un héritage dilapidé, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Cléophée Herman qui nous a accordé exceptionnellement cet entretien, à Dominique Elodie Lénis et à Manu Lénis. Merci également à Maître Vadim Aguer, Valentin Rémy, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Inès Bouffartik-Sébastien, c'est notre stagiaire.